un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Une avancée importante dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Le tueur tchétchène aurait échangé des SMS avec le père de famille placé en garde à vue. Cet homme avait appelé à la mobilisation contre l'enseignant. L'Assemblée a rendu hommage aujourd'hui au professeur assassiné, mais le débat politique a rapidement repris le dessus dans l'hémicycle. La polémique autour de l'Observatoire de la laïcité. Le gouvernement envisagerait de remplacer Nicolas Cadenne, l'actuel rapporteur général. Selon Marlène Schiappa, citée par l'hebdomadaire Le Point, Nicolas Cadenne ne serait plus crédible pour défendre la laïcité. Un peu partout en Europe, les gouvernements prennent des mesures de restriction face à la reprise épidémique. En Italie, la Lombardie va appliquer un couvre-feu. Les autorités lombardes qui estiment que les mesures prises par le gouvernement italien sont insuffisantes. À 15 jours de l'élection présidentielle américaine, de nouvelles règles pour le dernier débat Trump-Biden jeudi. Les micros seront coupés lorsque l'un des deux candidats n'aura pas la parole. C'est un nouvel élément qui fragilise un peu plus la thèse du loup solitaire dans l'enquête sur la décapitation de Samuel Paty. Le tueur islamiste Abdullah Kantsorov aurait été en contact avec le père de famille placé en garde à vue. Cet homme avait posté une vidéo appelant à la mobilisation contre l'enseignant, coupable à ses yeux d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Selon les derniers éléments de l'enquête, les deux hommes auraient échangé plusieurs messages.
Oui, le parent d'élève qui avait été appelé à la mobilisation sur les réseaux sociaux contre Samuel Paty a bien échangé des messages par l'application mobile WhatsApp avec le terroriste. Et cela dans les jours qui ont précédé l'attaque. Une source proche du dossier l'a confirmé cet après-midi. C'était l'une des questions centrales depuis vendredi dernier, savoir s'il y avait d'éventuelles complicités dans cet attentat, même si à ce stade, on ne sait rien du contenu des messages. En parallèle, les enquêteurs continuent de creuser la piste des responsabilités présumées de certains élèves, alors qu'une source indiquait hier que Samuel Paty avait été désigné par un ou plusieurs collégiens a priori contre une rémunération. Ils sont 5 mineurs actuellement en garde à vue, ce qui rend cette enquête particulièrement délicate pour la sous-direction antiterroriste et la police judiciaire. L'un de ces collégiens avait été relâché dimanche, il a été de nouveau placé en garde à vue aujourd'hui. 16 personnes sont actuellement sous ce régime de la garde à vue. La police connaissait 3 de ses protagonistes, apprend-on ce soir dans le Canard enchaîné. Le parent d'élève, bien sûr, qui avait signalé le départ de sa sœur en Syrie en 2014. Un homme entendu depuis hier est déjà condamné pour terrorisme. Et puis le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui.
Anne, dans les prochaines heures, la justice va devoir se prononcer sur les personnes placées en garde à vue dès vendredi soir, le jour de l'attaque.
Oui, 96 heures, 4 jours donc, c'est le délai de garde à vue normatif, on va dire, dans les enquêtes pour terrorisme. Pour les premiers interpellés dans cette affaire, on arrive donc au bout de ce délai. Ces personnes pourraient être présentées rapidement à un juge en vue de leur mise en examen ou relâchées si les charges ne tiennent pas. Exceptionnellement, néanmoins, la police peut demander une autorisation judiciaire sur décision d'un juge des libertés et de la détention. Les gardes à vue peuvent alors atteindre 144 heures et donc 6 jours avant le déferrement devant un juge.
Anne Fauquemberg, merci. Les hommages à Samuel Paty vont se succéder. Dans moins d'une demi-heure, une marche blanche débutera à Conflans-Sainte-Honorine. Demain, ce sera l'hommage national dans la cour de la Sorbonne en présence d'Emmanuel Macron. Dès aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui a tenu à saluer la mémoire du professeur d'histoire-géographie. Les députés ont observé une minute de silence sur les marches du Palais Bourbon avant de reprendre leurs travaux en séance. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Après l'hommage unanime à Samuel Paty, la joute politique a rapidement repris dans l'hémicycle.
Oui, passé le temps du recueillement et de l'hommage du président de l'Assemblée, Richard Ferrand.
L'Assemblée nationale, qui rassemble sur tous ses bancs des enfants de la République, dont certains sont eux-mêmes devenus professeurs, l'Assemblée nationale n'oubliera jamais votre nom, ni le crime qui vous a ôté la vie. Monsieur le professeur.
Passé ce moment d'hommage, les présidents des groupes politiques se sont succédés au micro cet après-midi pour interroger le Premier ministre et appeler à l'Union nationale, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe La France Insoumise.
Nous, monsieur le Premier ministre, vos opposants, nous disons à vos côtés pour dire aux ennemis de la patrie républicaine, vous ne nous faites pas peur, nous ne vous diviserez pas, nous sommes la France.
Avec plus de virulence, Damien Abad, président des députés Les Républicains, accuse, lui, le gouvernement de laxisme. Il demande des actes au Premier ministre.
La République du pas de vague, c'est la République qui abdique et qui, au final, laisse passer les islamistes. Ils sont passés. Et depuis 3 ans, votre majorité a refusé systématiquement toutes nos propositions contre l'islamisme radical.
Et à ces demandes répétées, Jean Castex lui a répondu avec autorité.
Décidément, toute occasion est saisie en cette période de crise pour nourrir la polémique et aligner les contre-vérités. J'ai déjà indiqué il y a quelques instants à la représentation nationale, alors que vous ne m'écoutiez pas, l'ensemble des mesures et dispositions opérationnelles que nous avons déjà prises, l'ensemble de celles que nous allons renforcer pour lutter pied à pied contre l'islamisme radical.
Le Premier ministre qui invite les députés à se rassembler autour du projet de loi de lutte contre le séparatisme, texte qui sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre prochain.
Pierre Neveu, merci. À noter que l'Association des Tchétchènes d'Europe appelle ses membres a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour incitation à la haine. Dimanche, le chef de la France insoumise avait estimé, je cite, qu'il y avait un problème avec la communauté tchétchène en France, avant d'appeler à expulser les Tchétchènes engagés dans l'islamisme politique. Selon le député insoumis Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon aurait reconnu avoir fait une erreur en utilisant le terme de communauté tchétchène. Parmi les mesures prises contre la mouvance islamiste, il y a la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reproche notamment à ses responsables d'avoir relayé la vidéo du père de famille placé en garde à vue. Avec cette fermeture, ce sont environ 1300 fidèles qui seront privés de lieux de culte pour 6 mois minimum. Et tous dénoncent une décision injuste. Le reportage d'Emmanuel Grabé à Pantin.
L'arrêté de fermeture prévoit 48 heures avant que la grande mosquée ne ferme ses portes pour 6 mois, mais devant le petit bâtiment en tôle, peu de monde passe depuis ce matin. Kader, un commerçant voisin, a bien senti un changement d'ambiance dans le quartier.
Une peur, je ne sais pas, une inquiétude, oui. Ça s'est passé à Clofas-Santorine et le problème, il s'est déplacé ici. Ça n'a rien à voir. Là, ils ont tout mélangé, là. Il faut trouver un bouc émissaire.
Parmi ceux qui s'approchent pour lire l'arrêté, Zohor, une retraitée qui vient parfois le vendredi pour prier, bouc émissaire, pour elle, le terme est bien trouvé.
C'est pas normal, c'est pas juste. Pourquoi fermer cette mosquée? Qu'est-ce qu'elle a fait la mosquée? Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la paix entre tout le monde. Le président de la mosquée, moi je ne le connais même pas. C'est une maladresse, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs, on est d'accord?
Parce que c'est la publication sur la page Facebook du lieu de culte de la vidéo du père d'élève de Conflans-Sainte-Honorine par le président de la mosquée Mohamed Henich qui est à l'origine de la décision du ministère de l'Intérieur. À cela sont venus s'ajouter des éléments sur le passé, la personnalité de l'imam principal Ibrahim Diokouré, ses études au Yémen par exemple, ou la scolarisation de ses enfants dans une école clandestine. Le ministère de l'Intérieur y voit un lien avec la mouvance radicale, un argument que rejette Moussa qui fréquente la mosquée depuis qu'elle a été créée.
Tous les fidèles qui viennent prier ici mange pour l'erreur d'une seule personne. C'est une erreur de sa part et je pense que lui il sait qu'il a fait aussi l'erreur. Il n'y a jamais un prêche qui m'a choqué ou même ne serait-ce qu'une phrase qui je me dis, oh là c'est chaud quand même. Quand je venais le vendredi pour la prière et qu'il y avait le prêche, quand je ressortais de la mosquée, j'étais apaisé. La façon de parler de l'imam, quand on écoute ses prêches, c'est poignant en fait et ça vous touche personnellement. Après il a son point de vue, d'autres cautionnent, d'autres ne cautionnent pas. Mais en fait, moi je comprends pas tout cet acharnement sur lui.
Pendant les 6 prochains mois, il devra aller prier dans les mosquées des villes voisines, Bobigny, Drancy, Aubervilliers, en espérant que celle de Pantin pourra rouvrir un jour.
Le reportage d'Emmanuel Le Grabé devant la mosquée de Pantin. Pour en finir avec les discours ambigus sur l'islamisme politique, le gouvernement envisagerait d'opérer un changement majeur au sein de l'Observatoire de la laïcité. Selon l'hebdomadaire Le Point, l'exécutif voudrait remplacer Nicolas Cadenne, le rapporteur général de l'Observatoire. Aucune confirmation officielle pour le moment, mais l'article du Point fait des vagues. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Cadenne est une figure controversée du combat pour la laïcité.
Effectivement, et la polémique ne date pas d'hier, elle date de janvier 2016. Depuis, une réaction de Nicolas Cadenne aux propos d'Elisabeth Badinter sur France Inter. La philosophe féministe y affirme que dans les lieux publics, on doit observer une neutralité, ce à quoi Nicolas Cadenne répond sur Twitter. Seuls les fonctionnaires sont soumis à la neutralité. Il conclut « Bien mauvais rappel sur la laïcité quand un travail de pédagogie de 3 ans sur la laïcité est détruit par une interview d'une personne ». Dès lors, 3 membres de l'Observatoire de la laïcité décident de suspendre leur participation aux travaux de l'Observatoire, dont Françoise Laborde, elle est alors sénatrice radicale de gauche.
Moi, je reproche à l'Observatoire de la laïcité d'être dans un moule qui dit il faudrait faire attention et peut-être que Moi, je vous le dis franchement, l'utilisation du conditionnel et des circonvolutions ne me conviennent pas. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et quand on est président de l'Observatoire de la laïcité, quand on est secrétaire de l'Observatoire de la laïcité, on reste à la mesure de son rôle et on ne se fourvoie pas avec n'importe qui.
N'importe qui, c'est par exemple le CCIF, le fameux collectif contre l'islamophobie en France, association dans le viseur du ministre de l'Intérieur depuis l'attentat de vendredi contre un professeur d'histoire. L'Observatoire a considéré dans le passé cette association comme un interlocuteur légitime. Et puis Nicolas Cadenne, en plus de Twitter, s'exprime dans les médias. Souvent, il donne son avis, bref, il s'expose. Mais beaucoup le voient comme le simple exécutant de Jean-Louis Bianco avec lequel il partage une même vision de la laïcité, une laïcité qui se veut tolérante, ouverte, mais ils sont perçus par leurs adversaires au sein même de l'Observatoire comme des défenseurs de l'islam plutôt que des défenseurs de la laïcité. À cette opinion semble partagée désormais par le gouvernement. À Matignon, on rappelle que le mandat de Jean-Louis Bianco prendra fin en avril prochain. Le président de l'Observatoire sera reçu dans les prochains jours par Jean Castex. Et on ajoute, l'Observatoire de la laïcité doit évoluer car il doit être possible en France de défendre la laïcité sans être taxé d'islamophobie.
Antoine Marette, merci. Les reconfinements et les mesures de restriction se multiplient en Europe face à la reprise de l'épidémie de Covid-19. À partir de demain soir, les Irlandais seront soumis à un nouveau confinement de 6 semaines. Au Pays de Galles, la mesure entrera en application vendredi pour 2 semaines. En Italie, pas de reconfinement général, mais des couvre-feux en Campanie et en Lombardie. La Lombardie qui reste la région italienne la plus touchée par le virus. Les autorités locales estiment que les mesures prises à Rome sont insuffisantes. Antonino Gallo.
Le mot du jour ne peut être que couvre-feu. Le maire de Milan ce matin est direct. Il utilise les paroles que le Premier ministre Giuseppe Conte ne voulait pas entendre. Beppe Sala explique aux Milanais pourquoi toute la région a décidé d'interdire tout déplacement de 23h à 5h dès ce jeudi et pour 3 semaines. Les Lombards pourront sortir de chez eux la nuit seulement pour des raisons liées au travail ou à la santé. La Lombardie craint que les mesures prises dimanche par le gouvernement n'empêchent pas que les hospitalisations en thérapie intensive soient près de 6 fois plus élevées d'ici la fin du mois. 113 aujourd'hui contre 600 dans 10 jours selon les analyses du comité scientifique qui conseille les autorités régionales. Aujourd'hui, les maires peuvent décider de fermer seulement des rues ou des places après 21h pour éviter les rassemblements. La région la plus touchée par le coronavirus, encore martyrisée par les centaines de morts autour de Bergame ce printemps, a donc décidé de prendre des mesures plus radicales qu'au niveau national. Le gouverneur Attilio Fontana de la Ligue à l'extrême droite ne compte pas refaire les erreurs de mars lorsque le nord de la péninsule a été pris par surprise par l'épidémie. Il a l'autorité pour prendre d'ultérieures mesures. Rome ne devrait pas l'empêcher d'être plus restrictif. L'Italie entière regarde maintenant la Lombardie en se rappelant que la région avait été mise en quarantaine ce printemps, 2 jours seulement avant le reste de la botte.
Antonino Gallofaro, l'un de nos correspondants en Italie. À 15 jours pile de l'élection présidentielle américaine, Joe Biden bénéficie toujours d'une large avance sur Donald Trump dans les sondages. 9 points selon la dernière enquête du New York Times. Mais si l'on regarde les états clés, les fameux swing states qui déterminent le résultat, l'écart se resserre notamment en Floride. Dans ces conditions, le dernier débat entre les deux hommes jeudi sera sans doute déterminant. Un débat au cours duquel le micro du candidat qui n'a pas la parole sera coupé. Benjamin Hill, il s'agit en fait d'éviter la cacophonie qui avait régné lors du premier débat en septembre.
L'objectif, c'est d'avoir une phrase qui va jusqu'au bout, éviter à tout prix la cacophonie du premier débat. À Cleveland, le site d'information Axios a fait les comptes. Le 29 septembre, Donald Trump a interrompu Joe Biden 71 fois et réciproquement, son rival démocrate lui a coupé la parole 22 fois. Rappelez-vous la foire d'empoigne et cet échange tristement célèbre. Donald Trump, inquisiteur qui empêche Joe Biden de parler, qui lui demande de dire quelles sont ses intentions par rapport à la Cour suprême, s'il veut augmenter le nombre de juges. Joe Biden, exaspéré, qui finit par lâcher la fameuse phrase « Tu vas la fermer, mec ». Cette violence, ce manque de clarté, le débat public à son plus bas niveau, la commission indépendante chargée d'organiser ces moments clés de la campagne, cette commission veut éviter que l'histoire se répète avec cette nouvelle règle, donc, pour le prochain débat à Nashville. Pour résumer, lorsqu'un candidat aura la parole, le micro de l'adversaire sera coupé. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre aux questions. Au bout de 2 minutes, un échange entre les deux de candidats sera possible, les deux micros ouverts cette fois. Sans surprise, Donald Trump est opposé à ces nouvelles contraintes. Il dit que c'est injuste pour son directeur de campagne. C'est inacceptable. La commission des débats veut, selon lui, fournir un avantage à son candidat favori, sous-entendu Joe Biden. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump sera à l'offensive pendant ce débat et prévoit d'évoquer les affaires ukrainiennes de Hunter Biden, le fils du candidat démocrate. Mais Donald Trump est prévenu, il aura 2 minutes pour chaque intervention après. Micro coupé.
Benjamin Illy, l'un de nos envoyés spéciaux aux États-Unis pour la présidentielle du 2 novembre. Pour la deuxième journée consécutive, Joe Biden a choisi de rester chez lui. Il n'a aucun événement public prévu à son agenda, contrairement à Donald Trump qui enchaîne les meetings. Joe Biden se cache encore dans son sous-sol, a ironisé l'équipe de campagne du président américain sur Twitter. On reste aux États-Unis pour évoquer cette offensive de la justice américaine contre Google. Une plainte a été déposée contre le géant du numérique accusé d'enfreindre la loi antitrust. Les autorités américaines veulent en fait des changements structurels au sein de Google. Loïc Loury nous appelle de New York.
Redéfinir l'économie numérique et changer le visage de l'une des compagnies qui en a défini les règles, la procédure antitrust qui s'ouvre est lourde d'enjeux. Pour Google, les accusations ne sont pas nouvelles. Le géant contrôle jusqu'à 90% de la recherche en ligne et empêche toute infiltration de la concurrence grâce à des contrats d'exclusivité. Des milliards, par exemple, versés à Apple pour que le moteur Google soit installé par défaut sur les iPhones. Selon les autorités fédérales, la compétition et l'innovation en ont fait les frais. Elles assurent donc vouloir imposer à l'entreprise des changements structurels, possible appel au démantèlement de certains pans du groupe. Mais l'affaire est aussi politique. Cette procédure, en effet, tombe à 2 semaines de la présidentielle et fait écho aux attaques régulières de Donald Trump contre les géants de la tech accusés de partialité à son encontre. Elles illustrent plus généralement l'animosité croissante ces dernières années des élus, démocrates comme républicains à l'égard de leur toute-puissance. Les poursuites qui débutent, toutefois, devraient s'étirer sur des années. 11 États se sont joints à la procédure. Facebook, Apple ou Amazon désormais attendent leur tour.
Loïc Loury, l'un de nos correspondants aux États-Unis. Régulation, modération, les géants du numérique sont-ils des espaces autonomes? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. C'est la plus ancienne et l'une des plus importantes politiques communes européennes, avec plus d'un tiers du budget de l'UE. La PAC, la politique agricole commune, est en discussion cette semaine à Bruxelles, à la fois chez les ministres de l'agriculture des États membres et chez les eurodéputés. Il s'agit de la PAC qui entrera en vigueur en 2023 et qui déterminera l'agriculture et notre alimentation pour les 7 ans qui suivent. Mais le projet de réforme est dénoncé par les écologistes. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, aurait oublié les promesses du pacte vert de 2018. Philippe Lamberts, eurodéputé belge et patron du groupe des Verts européens, y voit l'influence de certains lobbies.
Faire ce virage suppose une réécriture complète de la politique agricole commune et nous avons fortement encouragé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui s'est fait forte de pousser un Green Deal européen, de mettre la politique agricole commune en accord avec ce Green Deal. Il n'en a rien été et non seulement la proposition qui va être adoptée cette semaine-ci au Parlement européen trouvait son origine dans la Commission Juncker et c'était une proposition qui aggravait, je dirais, les dérives agro-industrialistes de la politique agricole commune, mais ce texte qui était déjà mauvais en lui-même, a encore été aggravé par le Parlement européen. Et donc, pour nous, c'est ni fait ni à faire. Cette politique agricole commune était déjà le principal angle mort du Green Deal européen de Mme von der Leyen, mais elle risque de devenir le facteur de déraillement le plus important de ce Green Deal européen. Tout simplement par la force du lobby agro-industriel européen, COPACOGECA, qui est le principal lobby, prétend parler au nom de tous les agriculteurs, ce qui est évidemment une vaste fumisterie. Il parle pour l'agrobusiness, pour les agriculteurs qui se font des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur le dos de la politique agricole commune, dans une seule optique, produire un maximum en dépit de tout l'impact écologique que peut avoir leur pratique.
Philippe Lamberts, ce patron des eurodéputés écologistes, il répondait à Angélique Bouin. Le temps demain, couvert et venteux sur la majeure partie du pays. 12 départements de la moitié sud sont en vigilance orange pour un épisode de vent violent. La zone concernée va des Pyrénées à l'Isère en passant par le Massif central. Avec cette dépression Barbara, la moitié nord ne sera pas épargnée par les vents forts. Les températures seront douces, de 6 à 17 degrés pour les minimales de l'Alsace à la Méditerranée et de 16 à 26 degrés l'après-midi pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.